garder les bonnes habitudes, je vais vous demander qui a déjà fait un peu de latin à l'école et qui parle couramment le latin aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3, 4. Mais je ne doute pas que ta réponse est positive à l'ensemble des questions, que tu as appris le latin et que tu le parles couramment. Je me souviens, j'ai appris, voilà, Rosa, Rosam. Donc ce matin, puisque nous avons quelques fidèles spécialistes de latin avec nous ce matin, je peux vous dire que nous allons regarder le texte qui s'appelle le texte dit du Benedictus. Avec ça, ça vous aide pas beaucoup, hein. Alors le texte de Benedictus, c'est la tradition, voilà, c'était plus pour la blague, qui a donné l'Église au texte de Zacharie 1, le texte de Zacharie dans Luc 1, le fameux cantique que prononce Zacharie, et il va dire effectivement plusieurs fois « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et il a racheté son peuple. » D'où le fameux « Benedictus ». Voilà, donc là, la semaine prochaine, nous aurons notre culte de Noël, notre fête de Noël intergénérationnelle, et nous avions prévu de regarder l'ensemble, vous allez, sans tuer le suspense, mais l'ensemble de Luc 1 et 2. Mais il y avait un texte, on avait décidé, parce qu'on s'était dit que ça allait faire un peu trop, de pas regarder, c'était justement tout l'épisode avec Zacharie. Donc voilà, donc le Seigneur a l'humour et me force ce matin à regarder ensemble aussi ce passage de Luc 1 sur Zacharie. Donc avant de lire le texte, on va lire les versets 67 à 79, c'est le fameux cantique qu'il a écrit, Luc 1, versets 67 à 79. Et donc juste pour quelques mots sur Zacharie, est-ce que vous en souvenez? Rémi, est-ce que tu sais qui était Zacharie? Ouais, alors tout à fait, c'était un prophète. Alors là, prophète de l'Ancien Testament, mais le Zacharie des Évangiles. C'était quoi son boulot? Prêtre. Voilà, pourquoi pas, c'est un boulot. Il était prêtre, un prêtre comme les autres. Et sa femme, Élisabeth, est cousine d'une certaine Marie. Et toutes deux âgées et toutes deux sans enfants. Et vous vous souvenez que Zacharie avait été complètement incrédule quand on lui avait annoncé que sa femme donnerait naissance à un enfant. Il avait été incrédule et Dieu, alors vous vous souvenez, il rend Zacharie muet. Voilà, un peu comme une sanction, mais aussi comme un avertissement de l'importance de ce qu'il est en train de dire. Donc Zacharie est muet, et finalement quand le fiston naît, Zacharie le nomme Jean, il retrouve la voix, et il retrouve la parole, et immédiatement ses premières paroles sont pour bénir Dieu. Ses premiers mots sont pour bénir Dieu. Et ne lui reproche pas d'avoir été muet, « Eh oh, eh oh, qu'est-ce que tu as fait pendant... » Voilà. Non, au contraire, il loue Dieu pour son fils, et le tout sans aucune rancune d'avoir été rendu muet des mois durant. Un tel miracle étonne alors les nombreuses personnes qui revoient Zacharie parler d'un seul coup et posent la question au verset 66, « Qui donc est cet enfant ?» On ne parle pas de Jésus, mais il parle de Jean, qu'on appellera Jean-Baptiste. « Qui donc cet enfant ?» Et là, on en arrive donc à notre fameux Benedictus, la lecture du jour. Et donc, je vous invite à lire les versets 67 à 79, dans la version donc second 21, et je suis à la page 661. 661. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Waouh. Quel beau Benedictus. Zacharie prophétise, c'est-à-dire non pas par lui-même mais par le Saint-Esprit. Prophétiser veut dire parler au nom de Dieu, par la part de Dieu. Et quand on prophétise, c'est simple. Nous, quand on pense au mot prophétie, on pense au fait de prédire ce qui va arriver ou d'annoncer ce qui va arriver. Mais pourquoi la prophétie, c'est aussi réaffirmer certaines vérités qui sont d'actuelles ou qui sont passées. Et Zacharie va faire les deux, et dans son cantique, d'ailleurs on voit qu'à peu près deux tiers du cantique, en fait, Zacharie est en train de faire le lien entre ce qui s'est passé, ce qui avait été annoncé, ce qu'il y a aujourd'hui, et seulement un petit tiers de son cantique, de cette prophétie, concerne ce qui va arriver dans quelques instants avec la naissance de Jésus et le salut qu'il va offrir. Donc Zacharie prophétise autant en regardant vers le passé qu'en regardant vers l'avenir. Et de ce cantique, de ce beau cantique, je vous propose d'en tirer trois questions auxquelles on apportera trois réponses. Première question, et Jean, tu as déjà un peu répondu ce matin, mais bon, c'est normal. Pourquoi Dieu nous sauve-t-il? Et on regardera les versets 72 à 73. Pourquoi Dieu nous sauve-t-il en Jésus-Christ? Deuxième question, de quoi Dieu nous sauve-t-il en Jésus-Christ? Pourquoi nous sauve-t-il? De quoi nous sauve-t-il? Et dernière question, pourquoi, avec un espace, pourquoi, dans quel objectif Dieu nous sauve-t-il en Jésus-Christ? Trois questions auxquelles on va réfléchir ensemble. Première question, donc pourquoi Dieu a-t-il décidé de nous visiter et de nous racheter? Quand on sait ce que ça lui a coûté, je parle de notre Seigneur Jésus, je parle de notre Dieu, quand on sait ce que ça lui a coûté sur la croix, quand on sait que ça lui a coûté, on se demande parfois pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils en tant que sauveur. Pourquoi? Pourquoi donc? Le psaume 5, des fois, pose la question, mais qu'est-ce qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'en soucies? Mais pourquoi donc Dieu a décidé de payer un tel prix? Zacharie, inspiré par l'Esprit Saint, nous apporte deux éléments de réponse ici. Un, par bonté, en raison de sa bonté, et deux, en raison de sa fidélité. Par bonté, premièrement, verset 72, Zacharie dit « Ainsi Dieu manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. » Verset 77-78, « Pour donner son peuple à la connaissance du salut par le pardon des péchés à cause de la bonté de notre Dieu. » Dieu est bon, Dieu est fondamentalement bon, il est véritablement bon. On l'a chanté, ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Et au fond de lui, il a envie de faire preuve de bonté, d'aller vers, effectivement, vers l'homme et de lui apporter, de lui faire bénéficier de cette bonté. Sommes-nous convaincus que Dieu est bon? Sommes-nous convaincus que Dieu est profondément, profondément bon? Ou alors, est-ce que Dieu serait un peu, sadique à nous, avec des épreuves, à nous laisser galérer dans certaines épreuves et, non. Dieu est profondément bon. Alors la bonté de Dieu, la bonté que Dieu désire aussi manifester envers nous, effectivement, elle n'est pas à comprendre comme pour nous du bien-être immédiat, mais comme une vie à sa ressemblance, comme une vie en sa présence, dans la connaissance de Dieu. Voici la bonté et le bonheur que veut nous faire partager Dieu. Alors pourquoi Dieu nous sauve-t-il? Premièrement par bonté, parce que Dieu est bon. Et c'est ce que Zacharie rappelle. La deuxième réponse qu'il donne, c'est que c'est par fidélité. Par fidélité, en raison de la grande fidélité de Dieu. Verset 70, on l'a lu, regardez le texte. C'est ce qu'il avait annoncé par sa bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 73, Dieu se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait. Verset 74, il avait juré de nous délivrer de nos ennemis. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et les enfants sont très bons pour détecter quand leurs parents ont dit quelque chose et ne le font pas exactement. Et là-dessus, il faut bien reconnaître notre faiblesse. Et des fois, oui, on peut donner des promesses. On les dit un peu pour calmer la foule. Et puis elles ont la mémoire. Mais Dieu est profondément fidèle à ses promesses et à sa parole. bien mieux que tous les parents réunis que nous pouvons être ou pas, mais voyez ce que je veux dire. Dieu est profondément. Ésaïe 46 le dit, ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Et Zacharie, comprenant le sens de la naissance de son fils Jean et de celle à venir du fils de Marie, il comprend et il s'empresse de faire le lien, alors que ça n'a pas encore eu lieu, mais il comprend déjà. Il s'empresse de faire le lien entre ce que Dieu avait annoncé dans sa parole et de ce qui est en train de se passer. Dieu est fidèle. Zacharie, qui était prêtre, donc il devait bien connaître les Écritures, il se souvient de ces différents versets, de prophéties qu'un sauveur arriverait. Et nous qui avons, en groupe de partage, on a regardé ces dernières semaines la grande histoire de la Bible. Et justement, on voit comment, dès les temps anciens, Dieu avait annoncé déjà qu'il allait se passer quelque chose. Alors on n'avait pas toutes les billes, mais on voyait. Et Zacharie, quand il voit, quand il comprend que son fils va être le prophète, tac, il fait le lien. Il devait peut-être se souvenir de ces paroles qu'on trouve en Genèse 22. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Zacharie comprend que la promesse qui avait été faite à Abraham, il y a longtemps, est en train de se réaliser. Verset 73, ce qu'il se passe, c'est conformément au serment que tu avais fait à Abraham, notre ancêtre. Il se souvient aussi des prophéties que Zacharie avait fait, que Dieu avait fait à travers David, et à travers le serviteur David, et il comprend aussi cet aspect-là. Jérémie 23 nous dit, « Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. » Et celui-ci régnera en roi, prospérera et pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est très bien que cette prophétie-là, ce n'est pas les successeurs de David, c'est pas Salomon, c'est pas les successeurs de David au sens terrestre qui l'ont fait. Mais Zacharie comprend que ce fameux sauveur qui arrive, verset 69, est bien de la famille de son serviteur David. Donc Zacharie comprend le lien avec Abraham, il comprend le lien avec David. Il comprend aussi le lien avec d'autres prophéties. Dans Michée 5, par exemple, il était dit « Et toi, Bethléem, petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Les temps anciens, Zacharie comprend, il a sûrement Michée 5 dans sa tête, et il bénit Dieu parce que tout ce qui est en train de se dérouler est bien ce que, verset 70, Dieu avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Aux temps anciens. Dieu est fidèle. Il tient parole tout le temps. Il n'est pas un homme ou une femme pour revenir sur sa décision, nous dit le livre des Nombres. Alors de même, soyons nous aussi prompts à regarder en arrière, à nous émerveiller en arrière de la fidélité que Dieu manifeste. Et quand des fois, on peut voir une bénédiction, on peut avoir une réponse à certaines de nos prières. Pensons le temps de remercier Dieu parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il nous avait promis ou quelque chose qu'on attendait. Prenons le temps aussi, comme Zacharie, de savoir regarder en arrière pour regarder le parcours qu'on a fait, d'où on avait et ce que Dieu avait promis et comment ça s'accomplit. Sachons remercier Dieu aussi pour regarder en arrière car Dieu est fidèle. Pourquoi nous sauve-t-il? Parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. C'est ce que nous rappelle Zacharie. Ce matin. La deuxième question à laquelle on veut réfléchir, et que Zacharie aussi s'émerveille de cela, c'est pas seulement le pourquoi, mais c'est les de quoi nous sauve-t-il? De quoi nous sauve-t-il? Et de nouveau, Zacharie a beaucoup de choses à nous apprendre. Vous le savez, hein, Israël avait été un peuple, a toujours été un peuple, isolé, opprimé, et que tous attendaient un roi, un juge, un sauveur, un guerrier, capable de les débarrasser de leurs ennemis. Alors, des fois ça avait été Babylone, des fois ça avait été Perse. À ce moment-là, c'était Rome. Verset 71. Oui, tous attendaient un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Voilà l'attente qui était. Il est légitime d'avoir cette attente, de vouloir se débarrasser de ses ennemis, de vouloir être en paix, non plus sous le joug d'un César, d'un roi. Et peut-être que Zacharie, au fond de lui-même souhaitait être débarrassé des Romains. Mais en tout cas, Zacharie comprend, de nouveau inspiré par le Saint-Esprit, il recentre la discussion et prophétise clairement que ce pourquoi est venu Jésus. Verset 76-77. Qu'est-ce que fera Jean-Baptiste ? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Jean n'est pas venu en tant qu'espion ou commando, en tant pour prévenir, pour anticiper, préparer le coup d'État que Jésus allait faire pour bousculer l'occupant romain. Mais il est venu pour apporter, je cite, la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et en fait, voilà ce dont quoi le peuple avait besoin d'être délivré de manière bien plus importante, de bien plus critique que du joug des Romains. Et voilà pourquoi Jean deviendra Jean le Baptiste et prêchera la repentance des péchés symbolisée par le baptême d'eau. C'est effectivement cela dont on a le plus besoin. Et encore aujourd'hui, c'est ça dont on a le plus besoin. Aujourd'hui, on peut penser, si vous faites un sondage dans la rue, de quoi avez-vous envie d'être délivré, de quoi avez-vous envie d'être aidé par Dieu, de quoi... Je pense qu'il y aurait 1000 choses sur lesquelles on pourrait répondre aujourd'hui. Certains parleraient de la grippe, du Covid, du réchauffement climatique, de certaines galères dans nos vies, du terrorisme. Je pense qu'on aurait tous une liste au Père Noël, grande comme ça, de sujets sur lesquels on voudrait l'intervention de Dieu. Et il est bon d'attendre aussi sur ces sujets-là, de prier, de demander à Dieu son intervention et son aide. Mais par-dessus tout, le vrai problème de l'être humain, et encore aujourd'hui, c'est bien, et bel et bien, cette rébellion, cette indépendance dans laquelle l'être humain s'enfonce siècle après siècle et continue, et ce dont il a besoin d'être délivré. Aucun problème, aucun sujet, aucun petit problème de nos vies n'est trop grand pour Dieu. Mais si Dieu conduit l'histoire avant tout, simplement pour faire qu'on ait des vies sympathiques ou pour nous aider, mais c'est que Dieu est en train de conduire l'histoire dans quel but ? Pour racheter des hommes et des femmes, Apocalypse 5 nous dit, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et voilà ce qui compte pour lui. Alors de quoi Dieu nous sauve-t-il ? Il nous sauve de nous-mêmes, dans un sens. Il nous sauve de nous-mêmes, de nos péchés, de notre incapacité à obéir parfaitement, de nos cœurs sombres et endurcis. Et si je dois donner un mot de témoignage, les sujets qui me découragent le plus sont souvent ceux qui viennent de mon cœur, plus des circonstances extérieures. Alors des fois, on peut avoir le moral à zéro quand telle chose nous arrive, quand il y a tel problème au boulot, tel problème avec ma voiture, tel problème avec je ne sais quoi. Mais entre nous, qu'est-ce qui nous décourage le plus ? Ce sont très souvent nos propres réactions quand on se surprend à avoir tel comportement, telle attitude, telle rébellion, telle lâcheté sur certains sujets. C'est pas ça qui vous attriste des fois le plus ? Moi, c'est le cas en tout cas. Et c'est justement de là dont Dieu veut nous transformer. Et c'est pour ça qu'il a envoyé un puissant sauveur en Jésus-Christ. Nous arrivons à la dernière partie, et à mon sens, la partie la plus intéressante, celle qu'on aurait quasiment qu'on pourra avoir tendance à oublier. Pourquoi Dieu nous sauve-t-il ? On l'a vu. De quoi Dieu veut-il nous sauver ? Mais dans quel objectif ? Pourquoi ? Là, je rajoute un espace. Pourquoi Dieu veut-il nous sauver en Jésus-Christ ? Dieu n'aurait pas élaboré un si grand plan de salut pour simplement dire à la fin « C'est bon, leurs péchés sont pardonnés, c'est chouette. » Sujet suivant. Mais Dieu, Zacharie, inspiré par le Saint-Esprit de nouveau, apporte dans ce cantique deux éléments de réponse pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés. Le premier, c'est celui peut-être auquel on chante le plus dimanche après dimanche, c'est pour que nous puissions être en paix avec Dieu, pour qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre le Créateur et ses créatures, pour qu'on puisse retrouver cette fameuse relation qu'on a pu voir en Genèse 1 et 2 dans les groupes de partage avec ce jardin qui nous donne envie, cette relation parfaite qui nous donne envie de vivre, mais que malheureusement, dès Genèse 3, ça y est, on ne peut plus vivre. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'on puisse retrouver cette paix, cette communion, cette intimité avec le Dieu, avec le Roi des Rois. Verset 79, qu'on vient de lire, « Si Jean-Baptiste est venu avant Jésus, c'est bien pour diriger nos chemins, nos pas sur le chemin de la paix. La paix. Et en annonçant, et c'est bien ce que va faire Jean-Baptiste, en annonçant la nécessité de la repentance individuelle, Jean-Baptiste préparait bien ce chemin vers Jésus. Et pour confirmer que le problème qui allait être réglé, celui du péché, il allait pouvoir, ainsi on allait pouvoir retrouver cette paix, cette relation, cette intimité avec le Dieu créateur. Et c'est ce que nous chantons dimanche après dimanche, et ce que nous voulons chanter encore un peu plus fort dans cette période de l'Avent. Mais l'Évangile ne s'arrête pas là. Et encore une fois, ça serait une erreur d'arrêter l'Évangile au seul pardon des péchés. Être en paix avec Dieu est une grâce extraordinaire, c'est le plus beau des cadeaux. Mais ça ne fait pas tout. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Et regardez ce que Zacharie dit au verset 74 et 75. Tout cela arrive afin de nous accorder le pouvoir de pouvoir le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je relis. Afin de nous accorder de pouvoir le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Ce verset contient des vérités extraordinaires. Pouvoir, nous avons été sauvés, pouvoir le servir sans crainte. Nous avons été sauvés pour pouvoir servir Dieu. Pas pour que Dieu nous serve, mais pour que nous puissions nous le servir. Et je le répète, tant c'est important. Nous avons été sauvés, non pas pour que Dieu nous serve, mais que pour que nous puissions le servir. Et comment ? Sans crainte. C'est un des plus beaux, moi je trouve que c'est un des plus beaux versets de ce cantique de Zacharie. Non pas pour pouvoir regarder tranquillement, regarder ce qui se passe autour de nous, pour avoir le droit à des bénédictions supplémentaires, hein, une carte de fidélité dans un magasin qui vous accorderait des bonus particuliers et des privilèges. C'est pas ça être chrétien, c'est pas avoir une carte de fidélité dans un magasin pour que avoir des privilèges. Au contraire, c'est nous qui sommes désormais à son service. Et on peut le faire sans crainte. Nous pouvons obéir à sa parole. Nous pouvons aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur. Nous pouvons aimer nos prochains. Nous pouvons servir nos frères et sœurs. Nous pouvons utiliser les dons qu'il nous a donnés. La liste est longue. La liste est longue. Mais tout ça, nous pouvons le faire sans crainte, sans peur. Ok, je vais peut-être me tromper. Ok, je vais peut-être pas faire parfaitement. Ok, je suis pas... Mais je le fais sans crainte. Et l'amour de Dieu envers moi ne va pas baisser ou diminuer parce que je loupe telle chose ou que je rate telle affaire. Désormais, je peux le servir sans crainte. Waouh. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Voilà dans quel objectif Dieu nous a sauvés. Pas seulement pour nous pardonner nos péchés et c'est bon, continuer à vivre comme avant, mais désormais, nous pouvons servir Dieu sans crainte. Et également, deuxième point que Zacharie soulève, nous pouvons marcher dans la sainteté et la justice. Au-delà de notre service et de ce qu'on peut faire, avec crainte ou sans crainte, Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse lui être fidèle et pour qu'on puisse marcher à ses côtés, à sa ressemblance. Vous l'avez vu, verset 75, c'est cela dit, tous les jours de notre vie. Alors c'est pas que les dimanches, c'est pas que la période d'avant, c'est pas que les jours pairs, les jours impairs, c'est pas que les jours où on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On est là où on peut comme ça marcher dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Même les jours où il pleut, même les jours où on a le moral à zéro, même le jour où on n'est pas à la hauteur. Nous voulons marcher dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Dans l'idée de sainteté, il y a l'idée d'être qu'à l'intérieur, on veut être fidèle, on veut être sans souillure, on veut être sans compromis envers Dieu. Et nous voulons aussi voilà, marcher dans la justice, que notre être extérieur soit aussi consacré à Dieu et à ses actions, et qu'on mette en œuvre sa parole. L'intérieur et l'extérieur, dans la sainteté, et que nos œuvres soient des œuvres de justice. Pourquoi Dieu vous sauve-t-il ? Dans quel objectif ? Il l'a fait pour que vous puissiez le servir sans crainte et que vous puissiez enfin marcher devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours, tous les jours, tous les jours de votre vie, jusqu'au dernier souffle. Nous qui disons avoir été sauvés par Jésus, nous qui chantons des cantiques dimanche après dimanche, nous qui nous disons chrétiens auprès de nos collègues, est-ce bien chaque jour notre cas? Est-ce que nous servons effectivement Dieu sans crainte? Est-ce que nous marchons devant lui? Est-ce que notre vie intérieure se caractérise bien par la sainteté? Est-ce que notre vie extérieure se caractérise-t-elle par de la justice? Et est-ce que nous faisons cela de temps en temps, quand il fait beau et qu'il n'y a pas de mistral? Ou alors tous les jours de notre vie? Ne nous arrêtons pas à la première moitié de l'évangile, qui nous fait simplement s'exalter devant la paix que l'on peut avoir avec Dieu, mais n'oublions pas, j'ai envie de dire, la deuxième moitié de l'évangile, qui nous appelle à vivre et à servir notre Seigneur et à marcher dans la justice et la sainteté. Alors, laissons-nous encourager par ces paroles, laissons-nous aussi bousculer s'il le faut, peut-être nous remettre en cause sur certains sujets ou sur certaines de nos attitudes. Laissons-nous encourager, laissons-nous bousculer par ces paroles. Acceptons de nous repentir devant Dieu s'il le faut. Et si c'est le cas, acceptons sa grâce et son pardon. Et remettons-nous en marche devant lui. C'est ainsi que sera notre bonheur et que sera manifestée sa gloire. Ma conclusion sera brève et ne sera qu'un rappel de ce que nous avons pu redécouvrir ce matin avec ce Benedictus et ces trois questions. Pourquoi, de quoi, pourquoi? La période de l'Avent et de Noël sont des fêtes, des périodes de fêtes, de réjouissance, l'occasion de s'émerveiller devant la bonté et la fidélité de Dieu. Zacharie nous l'a rappelé. Devant notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a délivrés du plus grand ennemi qui soit. Pas les Romains, pas le Covid, pas je ne sais quoi, mais bien de la mort elle-même. Et c'est ce que je vous souhaite de vous rappeler dans les semaines à venir. Mais cette période de l'Avent de Noël est aussi un rappel ce pourquoi Dieu nous a délivrés. Et à chacun d'entre nous de s'examiner et de demander de l'aide à l'Esprit Saint pour vivre sans crainte, pour le servir jour après jour et pour marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est ce que je vous souhaite également du plus profond de mon cœur pour cette période de Noël et pour les jours, semaines à venir. Je vous invite à la prière. Éternel, que tu es bon, que tu es fidèle, et nous voulons avec Zacharie nous émerveiller effectivement de ta bonté envers nous, de ta bonté intrinsèque et de ta grande fidélité à travers les siècles. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as annoncé, cela a eu lieu. Tu tiens parole, Seigneur. Et merci pour ce Dieu bon et ce Dieu fidèle sur lequel on peut compter, et parce qu'en Jésus-Christ, tu as prouvé, s'il y avait encore besoin de le prouver, mais tu as prouvé qui tu es. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et notre louange. Nous voulons aussi nous rappeler que c'est toi que tu nous as délivrés, non pas de nos... Tu veux nous délivrer non pas de nos petits soucis, non pas de nos problèmes, et tu voulais avant tout nous délivrer du plus grand ennemi qui soit, du seul ennemi qu'on n'arrive pas à battre nous-mêmes. La mort, le péché, notre faiblesse, notre incapacité. Et merci Seigneur, parce que tu nous en as délivrés en nous mourant sur la croix et en venant ici-bas. Notre Dieu, nous voulons aussi te demander ton aide par le Saint-Esprit pour marcher jour après jour à ta suite, pour te servir sans crainte, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la justice, tous les jours de notre vie. Soutiens-nous par ton esprit, donne-nous de rechercher cela, donne-nous de vivre cela. Et que Seigneur, quoi que nous fassions, quoi que nous vivions, quoi que nous pensions, que tout ce que nous puissions faire soit à ta gloire. Nous te bénissons, ô roi des rois. Amen.